Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir à nouveau Jean-François Moreau, puisqu'il était venu en juin. Alors, à l'époque, nous étions fermés, mais il avait fait une conférence assez originale. C'était un échange entre un philosophe des sciences avec lequel il travaille, lui-même étant immunologiste, professeur émérite de l'Université de Bordeaux. Et il va nous parler aujourd'hui des mystères de l'immunologie fondamentale, qui est évidemment un sujet aujourd'hui plus encore d'actualité. Donc, cher Jean-François, la parole, je vous passe la parole. Et puis après, nous aurons évidemment des échanges avec vous. Et pour ceux qui sont en ligne, je récupérerai également les questions.
Bon, merci, Louise. Donc, bonjour à tous. Et je voulais remercier l'espace Mendès France et puis l'Université de Poitiers de m'avoir invité pour essayer de partager quelques notions, disons, d'immunologie. Et mon propos c'est aujourd'hui, ce sera plutôt de vous fournir des pistes de compréhension de ce qui se passe, notamment au niveau du Covid, sachant que bon, tout ça, c'est transposable à toutes les maladies infectieuses, notamment. Alors, bon, vous savez que le système immunitaire est présent dans tout ce qui vit à la surface de la planète. Les plantes ont un système immunitaire, les éponges ont un système immunitaire, les méduses, tout ce que vous pouvez imaginer, les bactéries ont un système immunitaire. Et donc, on peut dire que de ce point de vue-là, que le système immunitaire est consubstantiel au phénomène vital à la surface de la planète. Il n'y a pas de vie sans système immunitaire. Donc, vous pouvez me dire à quoi ça peut servir le système immunitaire. Alors, si on pose la question à n'importe qui, évidemment, ça va être nous protéger des maladies infectieuses, nous protéger des bactéries, nous protéger tout ça. Alors, c'est qu'une partie de la vérité et une infime partie. En fait, c'est un système qui permet l'intégrité des individus, de garder les individus dans leur intégrité. Voilà. Donc, évidemment, si cette intégrité est menacée par une bactérie, ça va être promptivement la lutte contre la bactérie qui va s'opérer. On espère que l'issue sera favorable pour le système immunitaire, évidemment. Et après, il y a toute une phase de reconstruction, et c'est le système immunitaire qui orchestre toute cette phase de construction. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez, son rôle est beaucoup plus large que celui de lutter contre les facteurs infectieux. Voilà. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par une première question qui est souvent au cœur de la tête des gens, c'est que on parle de vaccination, on vaccine. Mais finalement, quelle est l'efficacité de cette vaccination en termes de population, en termes de protection et tout ça? Bon, mais d'abord, la première chose, c'est qu'il faut faire une distinction très claire entre la vaccination et l'immunisation. En d'autres termes, vous pouvez être vacciné, on peut vous vacciner et n'être pas immunisé. Auquel cas, ça ne sert à rien. La vaccination n'a pas rempli son but et vous n'êtes pas protégé. D'accord? Donc, vous savez que cette vaccination a pour but d'induire des réponses immunitaires et que ces réponses immunitaires reposent sur deux pieds, une réponse cellulaire et une réponse anticorps, c'est-à-dire des molécules qui sont présentes dans le sang, qui sont présentes dans le sérum et qui sont là, qu'on appelle des immunoglobulines en termes de chimie et en termes opérationnels, des anticorps, qui sont là pour neutraliser soit les virus, soit les bactéries, soit autre chose. Alors, ça, c'est souvent ce qu'on peut mesurer. C'est assez facile à mesurer. On fait une prise de sang, on regarde les anticorps et on regarde s'ils neutralisent, par exemple, le virus X. S'ils neutralisent le virus X, on en conclut que la personne, le sérum, possédait des anticorps qui sont neutralisants et qui vont donc empêcher le virus X d'aller sur ces cellules cible et de les infecter, et donc on n'est pas infectable, et donc on ne peut pas faire la maladie. Voilà. Ce pan de la réponse immunitaire, le pan cellulaire, est beaucoup plus difficile. On le fait, c'est faisable, mais c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus difficile, et donc on le fait que rarement, ou alors en recherche, mais pas en routine, en tout cas, au niveau du laboratoire d'analyse médicale, si vous voulez. Alors après, ce qu'il faut bien voir pour comprendre cette notion, la différence entre les deux, c'est que je vais beaucoup m'intéresser à la réponse humorale, puisque je vous ai dit, bon, d'une part, je veux simplifier, je ne peux pas vous dire toute une analogie en une heure, mais cela va de soi. Mais sur les choses qui sont les plus utiles à notre vie quotidienne. Donc, c'est la réponse humorale. Cette réponse humorale est très dépendante de la réponse cellulaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de réponse cellulaire, lymphocytaire T notamment, vous ne pourrez pas avoir de réponse lymphocytaire B, donc de réponse humorale. Donc il y a un lien entre les deux et ça va toujours dans le même sens. Donc si vous avez une réponse humorale, on est fondé à penser que vous avez bien aussi une réponse cellulaire. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça s'établit. Ensuite, vous avez quelque chose qui est fondamental en immunologie, c'est que le type de réponse immunitaire, et notamment d'anticorps que vous allez fournir, dépend de la voie d'introduction. C'est-à-dire que si vous introduisez l'antigène, c'est-à-dire par exemple le virus, le vaccin, par voie digestive, vous allez aboutir à une tolérance. Alors c'est un peu compréhensible si vous réfléchissez, parce qu'en gros, donc on ingurgite 800 kilos par an d'antigène, et Dieu merci, on ne fait pas de réponse immunitaire. Parce que si on faisait des réponses immunitaires chaque fois qu'on mange, eh bien, on aurait ce qu'on appelle des maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, maladies de Crohn, etc. Et donc, il n'y aurait pas de digestion possible, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas de vaccin par la voie orale, puisque ça aboutit à une tolérance. Et que ce n'est pas une tolérance qu'on veut, c'est au contraire une immunisation. Donc, on va d'habitude avoir le choix entre deux voies qui sont la voie d'introduction systémique, c'est-à-dire qu'on va l'injecter dans les muscles, et là, ça va gagner le flux circulatoire, si vous voulez, ou alors par voie muqueuse, par pchit-pchit, dans les narines et tout ça. Et vous voyez que ça ne donne pas du tout les mêmes anticorps. Alors, c'est important parce que dans le cas, par exemple, des maladies infectieuses virales, dont la porte d'entrée est muqueuse, si vous faites un vaccin systémique, comme ce qu'on fait, vous n'avez quasiment pas d'immunité muqueuse. Ce qui explique que les gens qui sont vaccinés, si vous voulez, ils vont avoir leur muqueuse qui va être sensible à l'action du virus qui vient de l'extérieur, qui va les infecter. Derrière, il va y avoir le système immunitaire systémique qui va être là, qui va empêcher, mais ils vont faire une petite maladie. Ça va s'accompagner d'une destruction muqueuse. Ce n'est pas du tout la même chose que si vous interceptez le virus avant qu'il infecte la muqueuse, avant qu'il infecte l'épithélium muqueux, d'accord ? Donc ça, c'est le rôle de ces immunoglobulines-là qui sont très particulières parce que tout simplement, elles résistent aux enzymes du milieu extérieur, alors que celles-là ne résistent pas aux enzymes du milieu extérieur. Voilà. Donc ça explique la différence, si vous voulez, entre vaccination. Je suis vacciné, oui, mais j'ai fait la maladie quand même. Enfin, je suis une maladie très faible, très, très légère, avec peut-être une journée à 38 et c'est tout. Je ne vais pas en mourir, ce n'est pas grave. Et puis maintenant, après, vous avez cette immunité. Donc après, l'immunoglobuline est à l'extérieur et bloque le virus et le virus ne rentre pas dans les cellules. Tandis qu'avant, il rentrait, il était intercepté derrière les... Voilà. Donc c'est relativement important à comprendre. Voilà. Après, vous avez le problème, parmi les anticorps qui sont fabriqués, il y en a qui peuvent neutraliser la protéine contre laquelle ils sont dirigés dans sa fonction. Par exemple, si c'est une fonction, ah ouais, putain. Mais il faut me le dire, hein, mais vous n'entendez pas derrière si je hurle, parce que si je, comme ça, c'est énervant, hein, les gens qui font ça. Bon. Et donc, si l'anticorps n'est pas capable de se fixer sur la protéine à l'endroit dont la protéine se sert pour rentrer dans les cellules, à ce moment-là, il n'est pas neutralisant. Et donc, vous avez beau avoir des anticorps, ça ne vous sert à pas grand-chose. En principe, bon, les deux vont de pair. Quand vous avez des anticorps en général, vous avez des neutralisants à l'intérieur. Enfin, c'est des populations qui sont mixtes et qui comprennent beaucoup d'espèces, hein, des milliers d'espèces différentes. Et vous avez des cas ou par exemple en cas d'inflammation chronique, là j'ai pris l'exemple des insuffisants rénaux terminaux qui passent au rein artificiel deux fois par semaine, en général 8 heures, ça crée, le fait de faire passer le sang dans une machine, crée une activation chronique du système immunitaire. Ces gens qui ont une activation chronique du système immunitaire, si vous voulez, s'immunisent très mal. Alors, autrefois, les cassettes de dialyse étaient communes à plusieurs malades et il y avait des hépatites virales épidémiques qui se propageaient dans ces populations de patients qui étaient assez redoutables. Or, on a un très bon vaccin contre l'hépatite A, l'hépatite épidémique. Eh bien, si vous vaccinez cette population de gens avec votre vaccin, le taux d'immunisation est de l'ordre de 20%. Il va falloir les revacciner, parce qu'ils ne répondent pas à la vaccination. Voilà. Donc c'est aussi le cas des gens qui font de l'obésité, qui ont une inflammation chronique très élevée, et aussi le rôle de l'âge, parce que ça me fait une transition entre les deux, puisque au cours de notre vieillissement, eh bien, vous allez avoir un déficit immunitaire qui se crée et qui se caractérise par exemple, une moins bonne contention des cellules cancéreuses. Donc, vous allez faire beaucoup plus de cancers. Et ils vont être moins bien, ils vont être plus graves, ils vont entraîner plus souvent la mort parce que c'est le système immunitaire qui contrôle ça. Et donc, il le contrôle plus mal. Il ne le contrôle pas du tout, des fois. Et donc, il y a aussi le problème de la vaccination, qui est très connu. Vous avez de multiples papiers, et notamment dans le Lancet, celui-là que je cite souvent. Mais bon, ils ont pris un vaccin contre la grippe et ils ont vacciné une classe de gens d'âge de 35 ans. Vous avez à peu près 90-92% d'immunisation parmi les vaccinés, d'accord ? De gens qui sont protégés, donc. Vous refaites la même chose avec des gens de 65 ans. 65, vous tombez à 40%. D'accord ? Donc ça va très vite, ça va très très vite. Et alors plus vous êtes vieux, moins c'est facile. Alors c'est un grand problème, c'est un très vieux problème de la vaccination chez les personnes âgées. Très difficile de les immuniser parce que vous avez ce problème d'immunité voilà, qu'on appelle de ce terme, qui s'appelle l'immunosénescence, qui décrit simplement le fait que le système immunitaire vieillit. Voilà. Et puis, vous avez tous les gens qui sont dans la population qui sont évidemment immunosupprimés pour des raisons médicales, iatrogènes. Par exemple, les transplantés pour tolérer leur greffon. Par exemple, les maladies auto-immunes, où là, on tape sur le système immunitaire pour que les gens ne soient plus malades, qu'ils fassent plus d'auto-immunité. Voilà. Donc, en fait, dans tous ces cas-là, ben, vous avez une grosse différence, ou vous pouvez avoir une grosse différence entre vaccination et immunisation. Et le fait de répéter la vaccination n'est pas le garant que vous allez réussir à les immuniser. D'accord ? Le cas des insuffisants rénaux, comme ça, on pouvait les vacciner 10 fois de suite. Et c'est pas sûr que vous arriviez à les immuniser, même au bout de 10 fois. Voilà. Alors... Il y a quelque chose qui va s'inscrire en faux par rapport à tous ces éléments négatifs, qui est le fait que des coronavirus dans la population, il y en a déjà qui circulent, 4, qui circulent depuis des milliers d'années. Et donc la population n'est pas vierge de cette empreinte, de la présence de ces coronavirus, et notamment du HQU1 et puis du OC43. Alors ça va être très important parce que ça va créer, si vous voulez, une espèce de pré-immunisation, ce qu'on appelle les réactions croisées. C'est-à-dire que le fait d'avoir subi des... la fréquence de ces infections, c'est très grand. Aux États-Unis, c'est la deuxième cause d'infection des voies aériennes supérieures, les coronavirus comme ça. Et en fait, il y a une immunité croisée entre les protéines qui servent à rentrer dans les cellules de ces souches-là et des souches de qui servent au Covid, pour le Covid. Et donc, ça va créer une hétérogénéité dans la population, et notamment une hétérogénéité parmi les jeunes. Il y a quelque chose qu'on comprend mal et qui vient d'être analysé ici. Vous voyez, c'est pas vieux, ça date pas d'un mois. Et qui est qu'en fait, les jeunes enfants, c'est chez eux que circulent beaucoup ces coronavirus qui sont endémiques dans l'espèce humaine. Donc, qui sont l'OC43 et le HQ1, Et en fait, alors ça c'est classique, hein, quand vous mettez vos enfants à la crèche, vous voyez qu'ils échoppent toutes les maladies de la Terre. Il faut qu'ils fassent leur histoire antigénique. Il faut qu'ils aient acquis toute cette mémoire immunitaire et tout ça. Et donc, en fait, les jeunes vont s'immuniser parce que ça circule beaucoup dans leur classe d'âge. Et étant récemment immunisés contre ces coronavirus, ils bénéficient, vous voyez, d'anticorps contre des portions qui sont communes, qui sont les portions en rouge, entre le coronavirus, ces coronavirus-là, HQ1 et OC43, et le coronavirus qu'on... Donc, en fait, vous allez avoir une espèce d'épidémiologie de l'épidémiologie, comme ça, à travers cette réaction croisée. Voilà. Donc, ça, c'est les Allemands, les premiers, qui avaient été frappés du fait que 30% des gens qui n'avaient pas été en contact avec les coronavirus du Covid étaient déjà immunisés contre le Covid. Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui va être très importante, c'est la durée de l'immunisation. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup « Ah, mais je suis immunisé, mais mon Dieu, ça ne va pas durer longtemps et tout ça. » Alors, bon, il faut savoir raison garder, parce que ça pose la question de la mémoire immunitaire. Donc, d'abord, quand vous rencontrez un antigène, que ce soit par la vaccination, que ce soit par une maladie naturelle, vous allez faire un pic comme ça d'anticorps dans le sang, et puis ce pic va diminuer, et puis va rester résiduel, tout, en général, tout le restant de votre vie. On verra ça après. Ce n'est pas exactement vrai. Donc, en fait, il est normal que si vous mesurez le taux d'anticorps là, vous concluez « Ah, j'en ai beaucoup !» Et si vous revenez 6 mois après, « Ah, mais j'en ai plus !» Non, pas que vous en avez plus, vous en avez relativement moins, ce n'est pas pareil. Il ne faut pas tout confondre. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, pour les anticorps vaccinaux, si vous voulez, par exemple, la coqueluche, ce taux-là, il est immesurable. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'en avez pas que vous n'êtes pas protégé. Alors, pour une raison simple, c'est que le poids de l'immunologie cellulaire dans la résistance aux maladies virales, il est énorme. La première ligne de défense, c'est les cellules, ce n'est pas les anticorps. Les anticorps empêchent les réinfections, c'est tout. Mais ça vient en seconde zone. Alors, il faut s'interroger peut-être sur, justement, qu'est-ce que c'est que la mémoire immunitaire? Comment ça peut, sur quelle base ça repose? Alors, il y a des composantes qui sont intrinsèques au système immunitaire, et puis il y a des composantes qui sont extrinsèques au système immunitaire dans le phénomène de mémoire immunitaire et qui déterminent sa durée. Les facteurs intrinsèques, c'est que, par exemple, il existe des cellules à longue vie dans le système immunitaire. C'est-à-dire que les cellules qui fabriquent les anticorps, elles proviennent de la différenciation des lymphocytes B qui s'appellent des plasmocytes. Ces plasmocytes sont des véritables usines à fabriquer les anticorps. Et ces plasmocytes peuvent être à durée de vie longue, c'est-à-dire une dizaine d'années. Donc, ils vont fabriquer, une fois qu'ils sont là, ils vont fabriquer un type d'anticorps, un anticorps particulier, pendant une dizaine d'années. Voilà. Après, il y a d'autres types de cellules à longue vie, par exemple parmi les lymphocytes T, qu'on appelle lymphocytes T mémoire, et parmi les lymphocytes B, qui se différencient en plasmocytes, qu'on appelle les lymphocytes B mémoire. Alors, les lymphocytes T mémoire, c'est très important, parce qu'évidemment, il ne vous a pas échappé que le système immunitaire est un système très particulier. C'est un système qui est liquide. Vous avez des lymphocytes au bout de l'oreille, vous en avez aussi au bout de l'orteil. Donc, ça pose le problème assez particulier. Si vous comparez au foie, vous avez un foie, il est à l'endroit du foie. Vous n'avez pas d'hépatocytes à l'orteil droit, vous n'avez pas d'hépatocytes dans l'oreille gauche. Ça n'existe pas. Et ainsi de suite pour tout le reste. Sauf les cellules du système immunitaire. Donc, ça demande, si vous voulez, une espèce d'organisation au niveau du schéma spatiale de l'individu qui est très particulière, qui est très complexe, avec des modalités de circulation et ainsi de suite. Et en fait, dans les tissus, les tissus sont infiltrés de ces lymphocytes T mémoire. Ce qui fait que quand les tissus subissent une agression, ils ont déjà, si vous êtes vacciné, si vous avez déjà vu l'agent, ben, il dispose déjà de tous les facteurs de résistance qui sont localisés à l'endroit où il faut. Ça, c'est un aspect des choses. Il y en a un deuxième, c'est que vous avez des organes très particuliers, comme par exemple la peau. Eh bien, si vous faites une infection sur le poignet gauche et que vous avez survécu, vous avez des cellules mémoire et vous avez une mémoire immunitaire contre ces agents à la suite de cette infection au poignet gauche. Mais vous êtes protégé sur toute la peau. D'accord ? C'est-à-dire que si vous rencontrez l'agent sur la cheville droite, vous êtes aussi protégé. Donc, il y a non seulement un aspect temporel, il y a non seulement un aspect fonctionnel, mais il y a aussi un aspect géographique qui est très important dans cette histoire de mémoire. Voilà. Alors ça, c'était pour les cellules à vie longue. Il y a autre chose aussi qui est très important à comprendre et dont on ne parle pas beaucoup, c'est la demi-vie des immunoglobulines. C'est-à-dire que dans le sang, si vous regardez dans le sang, pendant combien de temps les molécules y résident, y restent, avant d'être détruites, avant de disparaître. Eh bien, il faut savoir que pour les IgG, celles qui nous occupent de l'immunité systémique, d'accord, c'est de l'ordre de 3 semaines à 1 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, quand bien même vous en produisiez qu'une seule journée, ou si on vous en injecte, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie, comme dans le cas du botulisme ou dans le cas des venins de serpent, on va vous injecter des anticorps monoclonaux qu'on utilise pour traiter le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, ou je ne sais pas, le psoriasis, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses comme ça. Eh bien, ces immunoglobulines vont persister un certain temps. Vont persister, en gros, donc vous avez compris, hein, la demi-vie, c'est au bout d'un mois, vous en avez la moitié de ce que vous aviez au départ. Au bout d'un mois, vous en avez 4 fois moins. Au bout de 3 mois, vous en avez 8 fois moins. Donc, c'est comme ça. Donc, comme la radioactivité, pareil. Donc, en fait, pour en avoir zéro, quand bien même vous en auriez produit qu'une seule journée, ce qui est littéralement impossible parce que soit ces cellules existent, soit elles n'existent pas, vous êtes au moins protégé pour 6 mois. Et sont détectables pour 6 mois. D'accord ? C'est la base du diagnostic des déficits immunitaires humoraux chez l'enfant. Il y a un système qui fait passer les anticorps de la mère à travers le placenta dans le sang du fœtus. Le fœtus, il naît avec le même taux d'hémoglobine G que sa mère. Et donc, les enfants qui ont un déficit immunitaire sur le pan humoral de fabrication des anticorps, on ne les voit pas à la naissance. Le temps que les taux d'immunoglobine de la mère diminuent et se rendent, ce temps, ordinairement, est d'au minimum 6 mois. D'accord ? Donc, quelqu'un qui n'aurait pas d'anticorps 3 mois après la vaccination, ce n'est pas qu'il les a perdus, c'est qu'il ne les a jamais eus. D'accord ? C'est clair, ça. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Je vais passer à la composante extrinsèque au système immunitaire qui permet d'expliquer la mémoire. C'est que c'est la persistance de l'antigène. C'est-à-dire que si l'antigène persiste dans votre corps, il va stimuler de façon chronique votre système immunitaire. Et donc, comme ça, toute la vie, vous allez avoir une immunité contre cet agent. Alors, il y a plein d'exemples. Par exemple, la vaccination contre la variole. On vous injectait la vaccine, qui est la variole de la vache. Et c'est un virus qui, une fois qu'il est rentré dans le corps, il y reste. Donc, il stimule toute la vie. Donc ça, c'est un monsieur qui a eu le prix Nobel, qui s'appelle Rosenkranz-Nagel, qui est suisse, qui est toujours en vie, pour ses découvertes, notamment de la restriction allogénique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Qui a émis cette hypothèse du chat et de la souris. C'est qui dit, non, le système immunitaire, pour l'essentiel, n'élimine pas complètement l'antigène. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à éliminer complètement l'antigène. L'intérêt, et c'est comme des chats et des souris, c'est que si vous avez le chat à bouffer toutes les souris, il n'a plus de stimulation. Donc vous lui filez à bouffer, tout, il s'endort, tout, puis les souris viennent, puis il est là en train de roupiller. Tandis que si vous avez quelques souris qui demeurent, qui sont inaccessibles au chat, parce qu'elles sont derrière les plaintes ou je ne sais pas quoi, eh bien de temps en temps, il faut qu'elles sortent pour se trouver de la bouffe et tout ça, et là, ça stimule le chat. Voilà, c'était sa théorie du chat et de la souris, et qui est une métaphore, hein, qui n'a rien à voir avec la mais qui dit bien ce que ça veut dire. Voilà, alors, on va, c'est un papier là, qui a maintenant 2007, qui est assez ancien, mais c'est un des seuls papiers qui existe sur ce phénomène. Donc là, vous avez ici des gens qui ont été vaccinés par tous ces vaccins-là, tétanos, diphtérie, varicelle, variole et tout ça. Et ils ont regardé le nombre d'années où ils présentaient des anticorps. Voilà. Donc ça, c'est des vaccins qu'on appelle des vaccins moléculaires. La tétanos et la diphtérie sont des maladies de toxines. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bactéries. Dans le tétanos, d'ailleurs, le corps ne s'immunise pas contre ces bactéries, il y en a très peu, mais ils fabriquent une toxine qui bloque les muscles et qui va vous paralyser, notamment les muscles respiratoires. Voilà. Donc en fait, il faut qu'il y ait une réponse immunitaire contre la toxine. Donc on vaccine avec une toxine. Et vous voyez qu'à ce moment-là, alors d'ailleurs, il y a une différence entre les hommes et les femmes qui est assez nette. C'est valable pour tout. La femme ne réagit pas du tout comme l'homme. En termes d'immunité, c'est deux choses différentes. Dans l'auto-immunité, vous avez à peu près une immense majorité, ce sont des femmes. Certaines maladies, comme le lupus érythémateux disséminé, ou systémique maintenant, eh bien, c'est 9 femmes pour un homme. D'accord ? Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais si vous regardez la persistance de l'immunisation, parce que c'est ça qui nous occupe avec les vaccins moléculaires, vous voyez que c'est de l'ordre de 10 ans, 10-15 ans. Si vous regardez des vaccins qui sont vivants, à ce moment-là, la rubéole, la variole, à ce moment-là, c'est pour la vie. C'est basé sur la persistance du virus dans l'organisme qui restimule et ce que je vous ai expliqué, et puis le rayon, c'est pareil, voilà, et la rougeole, tout ça. Vous voyez, c'est infini, voilà. Donc, évidemment, le fait, le type de vaccin, qu'il soit moléculaire, comme dans l'hépatite B, ou la toxine diphtérique, tout ça, va conditionner le temps d'immunisation. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est très, très, très chaude et qui est assez simple à répondre, c'est quelle est la conséquence des mutations virales par rapport à la protection et par rapport à l'immunisation. En d'autres termes, si votre virus mute, est-ce que vous êtes toujours immunisé? Donc, est-ce que vous allez refaire la maladie ou pas? Alors, vous allez voir que c'est quelque chose qui est un peu complexe, mais si vous n'avez pas compris, je vous la réexpliquerai autant de fois que sera nécessaire et on va essayer d'aller pas trop vite. Mais bon, le gros du mécanisme est facile à comprendre. Après, les détails, c'est un petit peu, peut-être un peu complexe, mais bon. Premièrement, ce qu'il y a, c'est qu'on a une vision du système immunitaire qui est anthropomorphique. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le système immunitaire a un cerveau qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et tout ça. Pas du tout. Le système immunitaire, il ne sait pas qu'il lutte contre un cancer, il ne sait pas qu'il lutte contre un virus et ainsi de suite. D'ailleurs, il n'en a rien à foutre. Il n'est pas là pour ça. Donc, en fait, comment ça marche? Alors, il faut considérer que le cœur du système immunitaire, ce sont des cellules qu'on appelle les lymphocytes T. Et que donc, on va essayer de comprendre de façon assez globale comment ces cellules, ces lymphocytes T, reconnaissent ces agents externes. C'est ce qu'on appelle les antigènes. D'accord ? C'est ça la question. Alors, il y a deux pans à cette histoire. C'est la reconnaissance par les lymphocytes T et comment ils reconnaissent et la présentation à ces lymphocytes T de ces antigènes. Alors, vous allez voir, c'est une affaire qui est assez drôle et qui est fantastiquement intéressante. En fait, si vous prenez une solution d'antigène et que vous mettez un anticorps dirigé contre cet antigène, l'antigène est natif, l'antigène, c'est une molécule qui est soluble, l'anticorps va venir se fixer sur l'antigène. Alors, ce n'est pas un problème d'aimant. C'est un simple problème de diffusion et d'agitation moléculaire des molécules, mais une fois qu'il est fixé là-dessus, s'il est spécifique de cet antigène, il va y rester. Ça va faire un complexe qu'on appelle un immun complexe. Donc vous voyez, c'est une interaction qui requiert qu'une molécule de reconnaissance avec l'antigène qui est en face. En fait, le lymphocyte T, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais alors pas du tout, du tout. C'est qu'en fait, les lymphocytes sont des cellules, on l'a dit, et ils ont une espèce de récepteur qu'on appelle le T-cell récepteur, TCR, en abrégé, qui est composé de deux chaînes protéiques. Et ces deux chaînes protéiques, en fait, vous allez voir, vont reconnaître une toute petite portion de l'antigène qui a été découpée, qui fait 8 acides aminés, en général, c'est des protéines, et qui est présenté à l'intérieur d'une molécule qu'on appelle la molécule de présentation, hein, qui chez l'homme, enfin, il y en a plusieurs, mais je simplifie, hein. Il y a, je m'excuse pour ceux qui seraient des immunologistes déjà, mais, ou qui connaîtraient un peu l'immunologie, mais c'est ce qu'on appelle les molécules HLA, Human Leukocyte Antigen, qui ont d'ailleurs été découvertes dans les années 57 par un Français qui s'appelle Jean Doucet, qui a eu le prix Nobel pour ça dans les années 80, en 1980, pour cette découverte fondamentale. Donc en fait, ces molécules mettent à l'intérieur des petits bouts de protéines de l'intérieur de la cellule et comme ça vont présenter aux lymphocytes ces petits bouts et le lymphocyte va pouvoir s'activer si c'est le bon récepteur qui reconnaît le bon antigène. Voilà, ça c'est le principe. Alors, une fois qu'on a énoncé le principe, si on regarde comment ça se passe au niveau moléculaire, c'est un petit peu plus complexe. Vous avez la molécule HLA qui a une certaine configuration tridimensionnelle et à l'intérieur de laquelle vous avez ce peptide, ces 8 acides aminés qui sont issus de la dégradation de protéines beaucoup plus grosses et dégradation aléatoire de protéines beaucoup plus hautes à l'intérieur de la cellule et qui vont être reconnues par ces deux chaînes du TCR qui se fixent à la fois sur les bords là, de la molécule HLA et qui scannent l'intérieur de cette molécule et donc ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est la vraie image qu'on a obtenue par cristallographie il y a déjà une vingtaine d'années, vous voyez, une vingtaine d'années, oui. Et vous voyez là, ici, le morceau de protéine qui est en fait une protéine virale d'un virus, d'un rétrovirus, HTLV1, peu importe. Voilà, qui est là en jaune, qui est dedans et qui se glisse à l'intérieur de ces structures tridimensionnelles de la molécule HLA. Et là, vous l'avez ici, le TCR, on reconnaît la chaîne alpha, la chaîne bêta et trois boucles, là, ici, qui se fixent à la fois sur les côtés de la molécule HLA et le CDR3, ici, là, qui scanne ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, en fait, c'est un couple. Il y a une cellule qui reconnaît et une cellule qui présente. Et en fait, au niveau évolutif, c'est le phénomène de présentation qui est le plus important et sur lequel qui a été le plus complexe. Voilà une autre présentation. Donc voilà, donc vous voyez, ces molécules HLA, elles ont une conformation complètement démente parce que c'est une conformation qui, en effet, est une conformation de présentoir. Quand on les regarde par-dessus, c'est exactement un présentoir. Vous voyez, ça fait une corbeille dans laquelle vient se foutre, là, ici, se mettre l'acide, le peptide de 8 acides aminés, pour les classes 1, je simplifie, qui va être présenté au système, aux lymphocytes, qui va reconnaître ça à l'intérieur. Voilà. Alors, pour ceux qui auraient la nostalgie de la pâte à modeler, alors il existe deux types de molécules HLA, vous ignorez ça, mais vous voyez, ces 8 acides aminés, c'est exactement ce modèle-là, spatial. Et c'est exactement comme ça que va venir reconnaître le TCR, le lymphocyte du TCR. Alors pour ceux qui auraient une nature plutôt dirigée vers la cuisine, moins vers la pâte à modeler, je vous présente ce modèle-là qui est le modèle de hot dog. Vous avez la saucisse qui est le peptide et puis vous avez le TCR qui est du lymphocyte qui va reconnaître à la fois le morceau de pain et la saucisse qu'il y a dedans. Et donc vous allez comme ça pouvoir activer votre système immunitaire. Alors la question c'est comment et où se fait cette association entre ces protéines ou ces morceaux de protéines qui sont tronçonnés de façon aléatoire et cette association avec les HLA? Mais de façon très intéressante, ça se fait à l'intérieur des cellules. C'est-à-dire que c'est dans les compartiments de fabrication des protéines, ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique, là où on fabrique ces molécules HLA, que va se charger toute cette destruction, le produit de destruction de toutes les protéines de la cellule, qu'elles soient étrangères ou pas étrangères. D'accord ? Donc en temps normal, la cellule fabrique des protéines, mais elle en détruit aussi, parce que si elle faisait qu'en fabriquer, elle éclaterait. Donc il y a tout un système de destruction qu'on appelle le protéasome, peu importe. Et ça vous donne tout un tas de petits peptides qui proviennent de la dégradation de toutes ces grosses protéines qui constituent la cellule. Et vous avez une pompe, là, ici, qui prend ces peptides et, hop, les fait passer dans ce compartiment qu'on appelle le réticulum endoplasmique, dans lequel sont fabriquées ces molécules HLA. Et donc, ces molécules, là, ces petits peptides, vont pouvoir s'associer avec ces molécules HLA. Et c'est quand elles sont associées avec ces molécules HLA qu'elles sont bien conformées dans l'espace, qu'elles peuvent s'en aller à la surface et est exprimé à la surface. Donc, vous avez ici la traduction moléculaire de ce que je vous disais tout à l'heure, que le système immunitaire préside à un contrôle de l'intégrité des organismes. Parce que le système immunitaire ne peut pas aller dans les cellules voir ce qui s'y passe. Donc, c'est ce système qui rapporte sans arrêt, et c'est de l'ordre de la demi-heure, hein, continuellement, ce qui se passe à l'intérieur des cellules, qui reporte à la surface des cellules ce qui s'y passe à l'intérieur, pour que le système immunitaire le voie. Donc maintenant, ça c'est le système normal. Donc tant qu'on est dans le système normal, les lymphocytes regardent ça, bon, ils ne voient rien, tout va bien. Et puis, il y a un moment où le virus est rentré, et à ce moment-là, le virus, c'est un parasite obligatoire. C'est la cellule qui fabrique tous les composants viraux. Donc à ce moment-là, on va retrouver ici tout un tas de peptides qui sont issus de la destruction des protéines virales. Et à ce moment-là, la répartition ici en peptides qui sont vus par les lymphocytes va complètement changer. Et à ce moment-là, c'est ça qui va induire la réponse immunitaire. D'accord ? Donc ça, c'est la grosse, ça c'est le fonctionnement fondamental du truc. Mais vous voyez qu'à ce stade-là de l'histoire, ce qu'il faut retenir, outre ce que je viens de vous dire, c'est que le système immunitaire ne reconnaît que des tout petits morceaux, 8 peptides. Si vous regardez la protéine de spike qui sert au coronavirus pour se fixer sur les cellules et les infectés de la muqueuse, c'est à peu près 1200. D'accord ? Donc vous avez un tronçonnage comme ça, aléatoire et tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que ces molécules HLA sont tellement importantes pour la survie des espèces que si vous avez, par exemple, 2 variantes de gènes pour la couleur des yeux, les yeux foncés et les yeux clairs, on appelle ça des allèles. L'expression différentielle des gènes, ça s'appelle des allèles. Donc vous avez un allèle yeux foncés, un allèle yeux clairs, d'accord ? On avait 2 allèles. Pour les molécules HLA, on en connaît 8000 dans la population. C'est de très 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 loin le système le plus polymorphique que l'on puisse trouver dans les vertébrés, chez les vertébrés. Que ce soit les reptiles, que ce soit les vertébrés, c'est les reptiles, les mammifères, les oiseaux, les batraciens et les poissons. D'accord ? Tout ça est en tissu des poissons, les oiseaux est en tissu des reptiles, puisqu'ils sont les descendants des dinosaures qui sont issus des reptiles. Donc tout ça se tient, c'est les mêmes. Ils ont tous le même système immunitaire, on fonctionne tous pareil, avec des anticorps et tout ça, que ce soit le requin ou vous, ça fonctionne pareil. Voilà, ou le serpent. Voilà. Donc en fait, le système immunitaire, lui, reconnaît que des tout petits bouts de peptides. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne sait pas qui lutte contre virus. Je ne sais pas ce que c'est qu'un virus. Ce qu'il voit, c'est des changements de population de peptides qui sont exprimés par les molécules HLA. D'accord ? Donc, au cours de cette longue évolution, il y a des virus qui échappent au système immunitaire, comme par exemple le cytomegalovirus, qui sont présents dans le développement du système immunitaire depuis à peu près 300 millions d'années, parce que c'est un système qui a 350 millions d'années à peu près. Et ce virus, qui est très ancien, eh bien, en fait, il a, avec le temps, au cours de cette coévolution hôte pathogène, il a développé tout un tas de systèmes pour contrecarrer ou pour contourner la réponse immunitaire. D'accord ? Dieu merci, le système immunitaire est toujours là, 350 millions d'années après, et nous sommes toujours là pour en parler. Parce que si vous n'avez pas de système immunitaire, votre durée de vie à la surface de la planète, c'est l'ordre de 15 jours, pas plus. Hein ? Le système immunitaire, c'est ce qui vous permet la survie. C'est-à-dire que vous avez le foie, le gésier, tout ce que vous voudrez, le cœur qui fonctionne bien, ce n'est pas une condition suffisante, c'est une condition nécessaire. Mais la condition suffisante pour la survie, c'est le système immunitaire. Voilà. Donc, cette immunitaire qui réside sur la reconnaissance de tous ces peptides et tout ça. Voilà. Alors... Voilà, en gros, là, ça vous reprend le... Donc, je disais que ce système, il est très polymorphe. Donc, vous avez tout un tas d'allèles. Or, il se trouve que la différence entre les allèles, elle n'est pas n'importe où sur la molécule. Voyez ? Elle pourrait se situer, par exemple, elle pourrait être le gène pourrait coder pour des différences à ce niveau-là, sur le domaine alpha 3 ou le domaine d'association de la bêta 2. Non. Toutes les variations entre les allèles HLA concernent la poche qui va contenir le peptide. C'est-à-dire qu'on va avoir des variations entre les ailes sur la composition en acide aminé qui conditionne là, ici, c'est aux poches. Si fait qu'en fait, chacun de nous, vu la variabilité énorme des HLA dans la population, va avoir des capacités différentes de fixer certains peptides, d'autres pas. C'est une capacité donc qui va dépendre de votre allèle. Par exemple, je prends un exemple, la nomenclature est assez complexe des allèles, je ne sais pas. Mais si vous prenez par exemple l'allèle B47, l'allèle B47, c'est un allèle qui peut fixer beaucoup de peptides différents. Donc on le retrouve toujours associé à une bonne réponse immunitaire. Vous regardez le VIH, vous regardez tout, vous regardez le corona, c'était regardé. Les gens qui ont un HLA B47, ils résistent beaucoup mieux que les autres, d'accord ? À cause de ça, parce qu'il peut fixer tout un tas de peptides différents. Vous prenez un autre allèle qui est le B7, lui au contraire, il a une toute petite capacité d'éventail de fixation des peptides, voilà. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est bon d'un côté peut être mauvais de l'autre. Le B47 est très souvent associé à des maladies auto-immunes. Parce que la tolérance, je vais passer sur le mécanisme de la tolérance, que je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais évidemment, sont le négatif de toute cette réponse positive. Parce que si le système immunitaire commence à reconnaître vos propres composants, vous êtes fricassé, ça s'appelle une maladie auto-immune. Donc il y a une marge très étroite qui fait qu'il faut répondre à ce qu'on ne connaît pas, à l'étranger, mais il faut se respecter soi. C'est basé exactement sur tous ces principes-là. D'accord ? Donc en fait, selon les allèles que vous allez avoir une hétérogénéité de présentation. Donc on ne peut pas dire, monsieur machin, enfin si on peut le dire parce qu'on a des algorithmes maintenant et tout, mais en fonction de l'allèle qui vous a été donné sur le chromosome 6 de votre père ou votre mère, ben, vous allez pouvoir fixer certains morceaux de la protéine qui ont été réduites en peptides, comme je vous ai montré, ou d'autres. Voilà, c'est ce qui vous est illustré ici. Donc là, j'ai mis une protéine, voilà, elle est tronçonnée de façon aléatoire dans tous ces petits morceaux-là de peptides et tout ça. Et vous allez avoir ceux-là, par exemple, vont pouvoir s'associer avec cette allèle HLA, celui-ci avec cette allèle Z, mais aussi avec l'allèle W. Vous voyez, vous avez tout un tas de combinaisons comme ça. Ce qui fait que l'espèce humaine est fantastiquement hétérogène, fantastiquement. Et c'est, on peut dire aussi qu'elle est hétérogène parce que c'est le résultat de toute une archéologie infectieuse qui a sélectionné certains allèles. Ne résistent que les gens qui font une réponse immunitaire, les autres, ils disparaissent. Donc les allèles qu'ils présentaient disparaissent. Mais ça dépend de l'agent infectieux. Vous avez un taux de mortalité dans le Covid qui est l'ordre de 3 pour 1000. Mais dans la peste du Moyen-Âge en 1347, quand elle est réapparue après les pestes justiniennes et tout ça, là, du 2e siècle après Jésus-Christ, de la Rome, eh bien, il y avait en Italie du Nord jusqu'à 80% de gens qui mouraient. Donc là, ça vous sélectionne les allèles HLA, je peux vous le dire. Parce que en fait, c'est votre facteur de. Ne résiste dans la population que ceux qui. Alors, il y a une autre chose qui est très intéressante, si ça vous intéresse, on pourra en parler après, mais c'est que ces allèles HLA aussi. Alors, chez l'homme, c'est plus difficile à prouver, mais chez la souris, chez le saumon, chez d'autres espèces, le singe et tout ça, eh bien, en fait, vous avez. Les HLA sélectionnent aussi le partenaire sexuel. C'est-à-dire que. Cette histoire d'immunité, elle va très, 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 très loin. Elle conditionne même les modes de reproduction pour que l'espèce puisse résister à tout et qu'il y ait une variabilité de ces HLA dans la population parce que si cette variabilité, quand bien même vous perdriez 80% de la population, il y a 20% qui résistent et ça va repartir à partir des 20%. Et le phénomène, il y a un phénomène qui existe toujours de nos jours de création de nouveaux allèles qui n'est pas basé sur des mutations ponctuelles, mais sur des phénomènes. Bon, je passe au moment de la méiose et tout ça. Bon, c'est un petit peu complexe, mais c'est des gros bouts qui passent. Voilà. Donc là, je voudrais terminer sur cette histoire pour vous montrer un autre exemple de cette histoire-là, et on va conclure là-dessus, qui est que, enfin, oui, comme ça on aura le temps de poser des questions, si vous voulez. Ça, c'est une. Vous savez que pendant très longtemps, bon, c'est un petit peu passé de mode maintenant. Mais on a cherché à faire un vaccin contre le VIH, contre le virus de l'immunodéficience humaine. Bon. Et en fait, on prenait le gène qui code pour les protéines du constituant du virus, les protéines de la capside, les gènes GAG, et on vaccinait les gens avec différents vecteurs vaccinaux. D'accord ? Donc là, ce sont des singes, des macaques qui ont été vaccinés et une ligne représente un macaque. Et là, ici, vous avez pour chaque ligne horizontale la protéine GAG qui vous est matérialisée. Vous voyez, avec tous les acides aminés là, qui vont jusqu'à 125. Voilà. Et là, ce qu'ils ont regardé, c'est qu'en faisant varier le mode d'immunisation de vecteur avec le même gène, ils regardent le type d'immunisation. C'est-à-dire qu'ils regardent l'étendue de la réponse immunitaire. Contre quelle portion de la protéine GAG la réponse immunitaire est-elle dirigée ? Vous voyez que si vous vaccinez là, avec un vecteur, c'est un virus, là, ou alors par exemple celui-là, un adénovirus, que ça va plus vous parler, parce que l'adénovirus de chimpanzé, c'est celui qui est utilisé dans le Shadox, dans le celui d'Oxford, dans le... j'ai un trou de mémoire. Mais si, vous avez été vacciné avec ça. AstraZeneca. Dans AstraZeneca, ils ont mis le gène de la spike du virus, du coronavirus, le gène, puis on infecte avec ce virus du chimpanzé, qui est un adénovirus. L'avantage, c'est que l'adénovirus de chimpanzé ne se reproduit pas dans la cellule humaine. Donc, il n'y a qu'un cycle et qui amène à la production de la protéine exogène, la protéine virale du coronavirus, et donc qui permet l'immunisation. Bon, là, c'est pareil. Ça, c'est un vieux système, vous voyez, qui existe depuis des années, qui existe depuis 20 ans et qui avait été essayé aussi pour le VIH. Et vous voyez qu'en fonction du vecteur, ben vous avez des anticorps qui sont produits contre des endroits plus ou moins nombreux. Là, vous voyez, c'est 8,7 endroits de la protéine GAG. Après, vous montez, c'est... Et donc là, si vous prenez un vecteur cytomégalovirus, bon, qu'a d'autres avantages et tout ça, et vous regardez que là, vous passez à 32 endroits. Donc en fait, vous touchez la protéine du virus à 32 endroits différents, alors que là, vous ne le touchez qu'à 8 endroits différents. Eh bien, tous ces vecteurs-là, vaccinent, ils ne vous protègent pas contre la maladie. Alors que celui-là vous protège les singes très bien contre le VIH. Donc vous voyez que cette histoire de tronçonner les molécules est très importante au niveau du type de réponse immunitaire, de la puissance de la réponse immunitaire, pas en termes nécessairement de quantité, pas quantité d'anticorps produits, mais par rapport à ce que ça peut toucher et tout ça. Alors, pour revenir sur nos mutations maintenant, d'accord ? C'est que si vous avez une mutation, si vous êtes immunisé, voilà. Donc si vous êtes immunisé, par exemple, si vous êtes immunisé, vous fabriquez, ça c'est la protéine virale, et vous avez des anticorps qui sont dirigés contre cet endroit, et donc vous la neutralisez très bien tout ça. Bon, ah, ça mute. Donc en fait, cet endroit-là ne peut plus être reconnu parce que c'est un nouvel endroit. D'accord ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que je suis toujours protégé ? Oui, parce que vous avez les autres là, ici, qui sont toujours la cible de la réponse immunitaire. Et des endroits comme ça, vous voyez, vous pouvez en avoir beaucoup, parce que là, ici, vous en avez 32. Donc le pauvre virus, il ne peut pas muter 32 endroits à la fois. C'est impossible, puisque le produit de deux fréquences... Parce que la fréquence de deux événements, c'est le produit de chacune des deux fréquences. Par exemple, vous avez un événement qui arrive une fois sur 100 et vous voulez savoir, et un autre événement qui arrive une fois sur 100. Vous voulez savoir combien de fois arrive l'événement où il y a les deux mutations en même temps. C'est le produit des deux fréquences. C'est 100 par 100. C'est une fois sur 10 000. Vous voyez, donc c'est plus la même histoire. Donc en fait, vous allez comme ça. C'est pour ça que cette histoire de tronçonner les protéines et de regarder des petites portions de 8 acéminés est très important avec le phénomène de la variabilité de la présentation des HLA. Parce que le virus, il a très peu de chances de devenir résistant et de passer à travers ces mailles-là. Surtout que c'est un phénomène continu. C'est-à-dire que le virus, il ne va pas arriver tout d'un coup avec 20. Enfin, c'est possible. C'est comme ça qu'il arrivait au début, le corona. C'est-à-dire que, justement, il n'était pas connu dans la population. Il n'était pas connu par les systèmes immunitaires et tout ça. C'est un nouveau qui est arrivé, complètement nouveau. Comme le VIH est arrivé, qui était complètement nouveau, et ainsi de suite. Comme il y a 9000 ans, la grippe est arrivée, qui était complètement nouvelle, et ainsi de suite. Hein. C'est toujours la même histoire. C'est toujours des virus qui vont sauter de niches écologiques à d'autres niches écologiques et donc qui ne sont pas connus dans la niche humaine et qui suivent la destruction, la ligne de la destruction de la planète et donc de la mondialisation et tout ça et qui entraînent tout ça dans son sillage. Hein, c'est ça le résultat. Donc, sonnant et trébuchant, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que les mutations, ce n'est pas nécessairement grave et que le virus, lui, plus ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne peut pas muter n'importe où. Parce que s'il mute des portions qui lui sont nécessaires pour aller sur la cellule, mais il ne peut plus aller sur les cellules, il ne peut plus infecter. Alors, ça, c'est une vision, encore une fois, anthropomorphique des choses. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ce n'est pas le virus qui décide qu'il va muter et tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les virus, nous, quand on reproduit de l'ADN, bon, en gros, vous avez 1 milliard de cellules au gramme d'individus. Si vous pesez 50 kilos, vous avez 50 000 milliards de cellules. Bon, vous concevez bien qu'il en a fallu des divisions pour en arriver là. En fait, nous avons donc de réplication du code génétique, de réplication de l'ADN. Donc si à chaque fois que vous répliquez ce code, vous faites des erreurs, au bout de 50 000 milliards, ça va être un vaste bordel, c'est tout ce que ça va être. Bon, donc en fait, il y a des systèmes de contrôle de l'intégrité du recopiage qui sont très puissants. En fait, l'erreur, à peu près, il y a une erreur sur 1 million de fois. Voilà, c'est tout. Chez les virus, ces systèmes de contrôle n'existent pas. Donc, à chaque fois qu'ils reproduisent leur génome dans les cellules infectées, c'est une foultitude d'erreurs. Ce qui fait que quand la cellule crève et libère les cellules, les virions qu'elle a fabriqués, il y en a tout un tas qui ne sont pas du tout conformes avec l'original. Mais ne vont subsister que ceux, soit qui ont un avantage, mais tous ceux qui n'en ont pas d'avantage par les mutations et tout ça, vont disparaître. Et vous êtes toujours dans cette fabrication intense de variants, de trucs et de machins et tout ça. Et c'est donc vous et le système immunitaire, finalement, qui, ultimement, sélectionne l'apparition des variants. Donc, il est normal aussi que, théoriquement, vous ayez des variétés qui soient un petit peu différentes, qui n'échappent pas complètement à la réponse immunitaire, mais qui échappent un petit peu. Parce que ce n'est pas un phénomène de tout ou rien, c'est un phénomène... Vous voyez, discret, c'est pareil pour le cancer, hein, c'est pareil pour tout, hein, c'est pas propre du tout au virus, hein, ça n'a aucune... Le cancer, l'échappement au cancer, primitivement, c'est l'échappement au système immunitaire pour tout un tas de raisons, dont ces raisons-là. Voilà, donc j'espère que j'ai pas fait trop compliqué. J'ai essayé d'éluder les choses qui étaient... Je vais parler en généralité, parce que c'est un petit peu plus subtil que ça dans les faits, mais c'est très intéressant. Puis essayer de vous montrer qu'il n'y a pas de raison. D'ailleurs, vous comprenez bien, si vous réfléchissez un petit peu, que bon, le vaccin n'a pas changé depuis le début. S'il y avait vraiment un risque de mutation et tout ça, bon, on l'aurait changé, le vaccin, puis on vous immuniserait avec les... Alors, il y a d'autres virus, par exemple, le cytomégalovirus. Alors, il y a deux grands types de virus, hein. Il y a les virus qui, quand une fois qu'ils sont rentrés dans l'organisme, ils restent toute la vie. C'est notamment le cas du groupe des herpès virus. Alors là-dedans, il y a l'Epstein-Barr virus, qui est un virus qui est très répandu dans l'espèce humaine. À peu près tous les gens à 60 ans l'ont dans leur corps. Il y a le cytomégalovirus, c'est pareil. C'est à peu près 100% des gens qui l'ont. Donc c'est des virus qui, une fois qu'ils l'herpès, si une fois qu'ils sont rentrés, ils y restent. Donc là, on est dans la théorie de Zinckernagel. Voilà, le système immunitaire n'a pas la même efficacité d'aller traquer dans tous les endroits de l'organisme avec la même efficacité, donc de traquer les agents infectieux. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, en fait, ces virus restent dans l'organisme. Alors, si vous regardez, par exemple, ça a été fait par un virologue à Grenoble, si vous regardez, par exemple, au niveau du CMV, les gens à 60 ans, je ne sais plus à quel âge c'était, mais c'était dans ces eaux-là, il a regardé s'il n'y avait qu'une seule espèce de CMV qui était présente chez ces gens, ou si c'était, ou s'ils avaient plusieurs espèces. En fait, ils en ont jusqu'à 20 différents. Donc, en fait, ils ont été infectés 20 fois par des variants différents. Mais ils n'ont fait qu'une maladie, la première fois, ce qu'on appelle la primo-infection. Toutes les autres infections secondaires, le système immunitaire, c'est un peu comme tout à l'heure, la réaction croisée entre les coronavirus HQ1 là, et puis les OC43, pareil. Vous voyez ? Mais là, c'est à l'intérieur d'une même espèce et c'est à l'intérieur d'un individu. Donc vous allez, grâce à ce système de découpage des protéines et le fait que le système immunitaire lui reconnaît que des petits morceaux d'une même protéine, vous allez pouvoir avoir des mutations sur des endroits que vous ne reconnaissez pas nécessairement ou que, voilà, qui ne sont pas concernés par tout ça et tout ça. Et puis il y a toute cette variabilité dans l'espèce qui fait que c'est tout un bazar, quoi. Voilà. Est-ce que c'est à peu près compris ? Allez-y.
Attendez, oui. Madame.
Non, c'est enregistré. Oui, mais je suis dur de la feuille, moi.
Ah bon, pardon. On parle du coronavirus, donc on est en plein dedans. Donc le coronavirus, il est le même pour tout le monde, je pense, non ? C'est le même virus pour tout le monde.
Ah non, c'est pas le même virus, non.
Alors, pourquoi ?
Ben non, il y a les mutants, ils n'arrêtent pas de vous casser les oreilles avec tous les mutants, patati patata. Non, demain, vous allez mourir, donc vous voyez bien que vous êtes toujours en vie.
Non, mais alors, je reviens au vaccin. Pourquoi il y a des différences est-ce qu'il y a des différences dans les vaccins qu'on nous propose ?
Non, c'est ce que je vous ai dit. C'est toujours le même vaccin depuis le début. Le vaccin, lui, c'est toujours le même. C'est toujours le même code génétique, parce que maintenant, on vaccine avec de l'ARN. On vaccine avec un code génétique. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le code génétique dans les cellules par deux truchements, soit par un enrobage en lipides, comme le Pfizer et le Moderna, soit par un adénovirus de chimpanzé, et on fait rentrer un acide nucléique dans les cellules du muscle. Ces cellules fabriquent la protéine virale. La protéine virale, tout ce mécanisme là de HLA et tout ça se met en route, et le système immunitaire reconnaît ça, et fait une réponse immunitaire que sur cette protéine-là. Il y a un autre mystère aussi, que je n'ai pas dit, parce qu'il y en a pas mal aussi, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi ça, mais quand vous regardez la réponse immunitaire... oui, merci, je croyais que tu voulais m'absorber. Non, mais qu'est-ce que je fais ? Mais quand vous regardez les réponses immunitaires, il y a quelque chose de fascinant. C'est que si vous regardez contre l'EBV, l'EBV, c'est un très gros virus. Le CMV, c'est un très gros virus. Pour vous donner une ordre d'idée, le VIH, c'est 11 000 paires de bases. Le CMV, c'est 245 000 paires de bases. Donc, c'est un géant à côté. C'est 23 fois plus gros. Et toutes les gènes qui sont plus gros, c'est des gènes qui ont été acquis au cours des siècles pour contourner la réponse immunitaire. Et un des moyens de contourner la réponse immunitaire, c'est d'empêcher l'expression à la surface des molécules HLA. Donc, le CMV, il a 5 gènes qui lui servent à bloquer l'expression à la surface des HLA. Comme ça, le lymphocyte, le système immunitaire, il ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il ne peut pas voir le virus. Donc, ça, c'est le résultat d'une... Pour vous donner l'importance de ce phénomène. Parce que le lymphocyte, le système immunitaire, le lymphocyte B et les anticorps sont dépendants du lymphocyte T. Si le lymphocyte T ne s'active pas, il n'y a pas d'activation, il n'y a pas de fabrication d'anticorps. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas... Il peut y avoir des déficits immunitaires humoraux d'anticorps seuls, avec une conservation de la réponse cellulaire à lymphocytaire T, mais l'inverse, non. Si vous avez une altération du PAN-T, vous avez aussi une altération de ce qu'on appelle les déficits immunitaires combinés sévères, qui ont les deux, parce que qu'avec une altération du PAN lymphocytaire T. Le PAN lymphocytaire B ne marchera pas si le PAN lymphocytaire T ne marche pas lui-même. Voilà, les deux sont dépendants, pas l'inverse. J'ai répondu à la question ou pas ? Non. Comment ?
Ça la dépasse.
Tu dis ?
Que la dame, ça la dépasse.
Mais qu'est-ce qui vous dépasse ? Que... Ah bon, bah alors, mais dites-moi, vous êtes perdu, parce que c'est d'une simplicité béotienne, là.
Attendez, parce que c'est en ligne, en fait.
Dans les vaccins, ce ne sont pas du tout les mêmes formulations entre le Pfizer et l'AstraZeneca. Ah, ça, on n'est pas à chaque fois dans des ARN messagers.
Ah non, 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 je crois que c'est un... Non, non, je crois que c'est le
même. Parce que vous parlez de...
C'est le même. Ah non, attendez, c'est pas le même type de vaccin.
Oui.
Mais la réponse, mais la séquence qui est dedans, je crois que c'est la même. Hein.
Ah, pourtant, on dit bien que
c'est-à-dire
pas...
C'est-à-dire que la protéine qui est produite, c'est la même. Vous avez compris, dans les vaccins jusqu'à présent... Bah,
Pfizer et Moderna étaient présentés comme étant les mêmes.
Vous vouliez faire un vaccin contre la grippe, c'est simple. Vous cultivez le enfin, c'est simple, c'est méchamment compliqué. Il faut un an pour faire ça. Mais vous prenez des cellules de rein de singe, qui sont les cellules viraux, d'accord ? Vous faites des cultures massives, et puis vous mettez le virus de la grippe, et donc il va infecter ces cultures, et il va, les cellules de viraux, de rein de singe, vont produire le virus, d'accord ? Vous sélectionnez, vous avez un processus chimique, bon, tout simple, qui vous sélectionne ces virus, et vous prenez les protéines qui sont contre lesquelles sont dirigées la réponse immunitaire et qui servent au virus à rentrer dans les cellules, c'est-à-dire les protéines d'hémagglutinine, H, et les protéines neuraminidase, N, d'accord ? Qui existent à plusieurs exemplaires dans les populations de virales. Il y a une quinzaine d'hémagglutinines, il y a à peu près autant de neuraminidases. Et en fonction de toute cette combinatoire et de morceau par morceau, vous avez une infinité de H et de N. C'est pour ça qu'on vous appelle. Aujourd'hui, ça va être le H1N1. Demain, ça va être le H2N3 et ainsi de suite. D'accord ? Voilà.
Mais ça, c'est la grippe. Par contre,
donc ça, c'est la grippe. Donc on fabriquait les vaccins comme ça. Mais maintenant, fini.
Les histoires d'ARN messager, on n'est pas dans le même processus
voilà,
de fabrication.
Voilà, vous mettez le code. Et c'est vous injectez ce code dans les cellules, et c'est les cellules qui fabriquent la protéine. Vous n'avez plus besoin de la fabriquer. C'est infiniment simple. C'est une technologie qui a 30 ans. Ça coûte beaucoup moins cher. Et vous pouvez changer
mais
le code
étant,
quand vous voulez.
Étant,
la machine, elle est grosse comme ça, qui fabrique l'ARN. Elle est grosse comme ça.
Mais ceci étant, à côté de ça, par exemple, AstraZeneca... C'est pas l'ARN messager.
Ah non, AstraZeneca, c'est plus complexe.
C'était
parce
ma question.
Il faut faire un virus qu'on appelle recombinant, c'est-à-dire c'est un virus
d'adénovirus. Bah, c'est le principe du virus.
Vous êtes revenu au phénomène de la grippe.
D'accord.
Mais pas vraiment, parce que c'est pas les protéines qui vous intéressent,
c'est
l'acide nucléique pour le faire rentrer dans la cellule, pour que la cellule fasse la protéine virale.
Alors il y a quand même aussi, il y avait une très très forte interrogation, je ne sais pas où on en est, ce fameux vaccin ARN messager.
Ouais.
Avec des inquiétudes à long terme pour avoir un risque de modification de l'ADN de l'humain.
Non, il n'y a rien. Non, non, c'est l'ARN.
Ça a été soulevé quand même, cette question. C'est un ARN messager. On n'est plus dans un virus, je dirais, désactivé.
Ah non, mais c'est ce qui fait le virus, très exactement. Voilà. Le virus, lui, il a une boîte dans laquelle il y a son acide nucléique. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a son code. La boîte, elle fusionne avec la membrane. Elle a injecté la boîte. Et donc, l'acide nucléique rentre dans la cellule. Et l'acide nucléique, après, il va être fabriqué en protéines. Enfin, il va être traduit par.
Mais est-ce qu'on sait vraiment, avec le recul qu'on peut avoir, est-ce qu'on sait vraiment qu'il n'y a aucun risque pour qu'un jour, il y ait quelque chose qui se modifie au niveau de l'ADN ?
Non, parce que c'est des demi-vies très courtes. Ça produit de la protéine pendant très peu de temps, pendant 48 heures, pas plus, 3 jours maximum. Et puis, ils sont détruits, ces ARN. C'est le fonctionnement normal de la cellule.
D'accord.
Vous avez des tonnes de... Alors, la demi-vie des ARN messagers, justement, elle est pilotée par la queue de l'ARN messager qui, non codant, les séquences AU et tout ça, enfin, je vais citer deux exemples, c'est que vous avez, par exemple, une molécule qui est de très courte durée de vie avec un ARN de courte durée de vie qui est de l'ordre de la demi-heure, qui code pour l'interféron gamma. Et vous avez des ARN de très longue durée de vie, comme par exemple la globine, qui, lui, c'est de l'ordre de 12 jours, 13 jours. Bon. Si vous prenez la queue non codante de la globine, vous le mettez sur la queue, vous remplacez la queue de l'interféron gamma par la queue de la globine, hop, l'interféron gamma, ça passe à 13 jours. Vous voyez, la demi-vie de l'ARN n'est pas dépendante de ce qui code, il est dépendant de séquences non codantes. Donc, ils ont bricolé l'ARN qui nous injecte avec une demi-vie assez longue pour que ça produise pendant assez longtemps. C'est l'ordre de 2-3 jours. Voilà. Mais après, c'est fini. C'est détruit dans la cellule. Il y a toute une régulation de la cellule. Bon, je ne vais pas vous expliquer ça avec les dicers et tout ça, mais bon, c'est tout un bazar. Donc, c'est détruit. Donc, et encore une fois, dans Pfizer, vous injectez l'ADN lui-même parce que vous l'avez mis dans une espèce de coque en lipides. et qui va se fusionner avec les membranes, avec les membranes des cellules. Et ça va injecter l'ARN dedans. Et l'ARN sera traduit en protéines. Dans le cas des virus, de l'ADN, de l'adénovirus, c'est la capside, c'est la boîte qui contient les machins, qui est injectée dedans et tout ça. Voilà. Et qui est détruite après. Alors, vous avez tout un tas de modalités, parce que vous avez des ARN qui sont... Alors, vous avez des virus à ADN, vous avez des virus à ARN, vous avez des virus à ARN positif, vous avez des virus à ARN négatif. En gros, ça dépend du nombre d'étapes qu'il y a en plus pour arriver à la protéine. Parce qu'en fait, la machinerie qui traduit les ARN en protéines, elle est fixe. Les ribosomes et... voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Enfin, on peut rentrer si vous voulez. Mais...
Il y a une question, là.
Hein ?
Il y a deux questions en ligne.
Vas-y.
Alors, vous avez fait la différence entre l'immunité systémique et l'immunité muqueuse.
Ouais.
Si je ne me trompe pas, vous avez dit que la vaccination contre le Covid-19 agissait sur l'immunité systémique. Ne serait-il pas possible d'agir directement sur l'immunité muqueuse pour le Covid-19 pour être mieux protégé ?
Ben oui, il y a des modèles de souris, en effet, qui vaccinent par les muqueuses. Et là, tu es mieux protégé. C'était le même problème avec le VIH. On voulait un vaccin, ils voulaient un vaccin muqueux, parce que c'était primitivement la population homosexuelle qui était touchée.
Oui,
fallait une immunité muqueuse.
Pour le VIH, c'est par spray, c'est ça ? Non ? Pour le Covid.
Oui, oui, oui. Les modèles animaux sont très probants.
Ouais,
c'est ce que je vous dis, oui, absolument.
Et qui serait du coup beaucoup plus efficace.
C'est ce que je vous dis, il est plus efficace parce qu'il est muqueux, parce que vous interceptez le virus avec les IgA2 avant qu'il rentre dans les cellules, alors qu'avec l'autre, vous n'interceptez pas cette phase, vous l'interceptez après.
Attendez, parce qu'il y a les gens en ligne, il faut qu'ils vous entendent.
Et ce fameux vaccin, alors, pour les muqueuses, qui arrivera je ne sais pas quand, ça fait déjà 2 ans qu'on a le... Est-ce que, si on l'injecte sur une muqueuse, il agit sur l'ensemble des muqueuses du corps ?
Je ne comprends rien. Avec le masque, je ne comprends rien.
Oui. Est-ce que ce vaccin qui agit sur les muqueuses, si on l'injecte sur les muqueuses, je ne sais pas, du visage, ensuite il agit,
il
protège l'ensemble des muqueuses,
Se diffuse. Absolument, ouais. C'est comme la peau. C'est comme la peau. Vous faites l'infection au bras gauche, vous êtes protégé pour le tail droit.
Alors,
oui.
J'en profite peut-être pour poser une autre question avant le... Est-ce qu'on sait booster cette fameuse immunité qui paraît vitale ? Est-ce qu'on sait la booster ? Et est-ce qu'on sait lutter contre l'immunosénescence ?
Alors là, mon pauvre monsieur. Bon, alors si
on peut toujours poser la question.
Ah ben là, si vous arrivez à ça, vous avez gagné le jackpot, je peux vous le dire, moi. Parce que ça, il y a des milliards de gens qui en rêvent. Alors, c'est très simple. Vous avez compris une chose, là, parmi tout le bordel que je vous ai dit, c'est que tout repose, en gros, le cœur du système immunitaire, c'est l'infocyté. D'accord ? Donc, la question légitime, c'est qui produit les lymphocytes ? Comment ils sont générés ? Voilà. Ils sont générés par un organe qui s'appelle le thymus, que les ménagères connaissent bien, qui s'appelle le riz de veau. D'accord. Bon, c'est lui qui génère les lymphocytes. Or, cet organe, il involue après la puberté. Donc, après la puberté, alors c'est très variable selon l'individu, mais vous ne pouvez pas produire, vous ne pouvez plus produire ou peu de lymphocytes. Donc en fait, les lymphocytes que vous avez, ce sont les lymphocytes que vous avez produits avant cette période d'involution du thymus. On est d'accord. Or, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais c'est que ce TCR-là, je vous ai dit qu'il y avait, vous vous souvenez du TCR ? C'est la molécule. C'est ça. C'est lui, le TCR. C'est la molécule à la surface du lymphocyte qui reconnaît le complexe peptide plus HLA. D'accord ? Donc, en fait, ce TCR-là, au niveau de votre population de lymphocytes, il n'est pas unique. Il y en a à peu près 1 milliard de différents. On ne vous explique pas comment c'est généré. C'est une histoire fascinante, et surtout sur le plan évolutif. Mais voilà, chacun de nous a à peu près 1 milliard de TCR différents. C'est exactement comme la vision. Donc, il vous donne un champ de vision de tout le monde antigénique que vous pouvez rencontrer. Faire engueuler. Donc, voilà. D'accord ? Bon, un TCR, c'est un gène. Donc, en fait, c'est une cellule. Si vous arrêtez de produire des lymphocytes, ça veut dire que vous ne pouvez pas compenser pour la perte de ces TCR. Et donc, au fur et à mesure de votre vie, cette richesse en TCR diminue inexorablement parce que vous ne pouvez pas la remplacer, tout simplement, à cause de l'involution thymique. Et donc, vous créez un déficit immunitaire avec l'âge. Voilà. Et ça, c'est comme si vous aviez votre vision qui se rétrécissait. Vous ne pouvez plus voir que... Vous pouvez plus voir que ce que vous voyez avant.
Ça ne s'injecte pas. Attendez.
Comment ?
Ça ne s'injecte pas. Ça ne s'injecte
non.
pas.
Non, 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 parce que c'est le problème des greffes. Le problème des greffes, c'est la différence. Je vous ai dit, ces molécules HLA, vous avez vu, je les ai achetées, je les ai appelées. Il y a un moment, je ne peux pas tout vous dire, parce que c'est toute l'immunologie qu'il faudrait faire en une heure. C'est impossible. Mais ça s'appelle le complexe majeur d'histocompatibilité que Jean Dossé avait découvert et tout ça. D'accord ? Et donc, ça s'appelle le complexe majeur d'histocompatibilité parce que ces antigènes HLA que nous recevons de notre père et de notre mère sur le chromosome, sur le bras court du chromosome 6, en fait, c'est un facteur d'hétérogénéité entre tout un chacun qui est énorme. Puisque je l'ai dit, il y a plus de 8000 allèles dans l'espèce humaine. D'accord ? Donc, retrouver des gens identiques, c'est très rare. Et ça, c'est le groupage des greffes. C'est l'hétérogénéité tissulaire qui fait qu'on va rejeter si on n'est pas identique. D'accord ? Donc, c'est... Voilà. Donc, vous ne pouvez pas injecter des cellules des autres gens. C'est le problème de la greffe de moelle osseuse. Vous pouvez injecter que ceux qui sont identiques. Pourquoi vous pouvez injecter ces identiques ? Mais parce que si vous injectez dans un organisme dans lequel vous avez détruit par la radiation et tout ça, tout son système immunitaire, pour faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques qui vont redonner un nouveau système immunitaire, il faut que vous fassiez attention que ce nouveau système immunitaire soit compatible avec tout le reste des cellules de l'organisme. Parce que s'il n'est pas compatible, qu'est-ce qui va se produire ? Ce nouveau système immunitaire va entrer en réaction avec tout le reste de l'organisme et le détruire. C'est ce qu'on appelle la graft versus host disease, la GVH, c'est-à-dire la réaction du greffon contre l'hôte. Donc ça, il n'en est pas question. C'est une super maladie auto-immune que vous induisez. Et ça, on ne peut pas. Donc, ce système HLA, il est fondamental. Et c'est un système qui crée une hétérogénéité dans chacun d'entre nous pour des raisons de résistance aux maladies infectieuses. Hein, on est bien d'accord. Et de choix du partenaire. L'histoire du choix du partenaire sexuel, c'est quand même... C'est un gars, je ne me souviens plus de son nom, mais en 76, vous savez, chez les souris... Il y avait un gars, Snell, bon bref, il avait acheté avant la guerre des coupes de souris dans une pet shop à New York. Bon, et ces coupes de souris, qui étaient des souris que les gens avaient chez eux et tout ça, il les a fait se reproduire entre elles, d'accord, entre mère, fils, machin, pendant 10 générations. Et là, vous avez des lignées de race pure, ce qu'on appelle les lignées de race pure. C'est quoi les lignées de race pure ? C'est des lignées où sur les deux chromosomes, vous savez, les chromosomes, ça marche par paire, vous avez un qui venait de votre père, un qui venait de votre mère, eh bien, ils ont les mêmes allèles. Donc, ils sont homozygotes. Donc, ils se comportent comme des jumeaux vrais. D'accord ? Donc, tous les membres de la lignée sont identiques entre eux. Donc, on en a comme ça. On a la DBA2, on a la C57 Black 6, il y en a une dizaine, la C3H et ainsi de suite. Bon. Et donc, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il met un pauvre mâle. Dieu sait son con, les mâles, mais juste. Donc, il met un mâle dans une cage. Et il lui met des femelles, soit du même background génétique que lui, soit d'un background différent. 80% du temps, le mâle choisit le background différent. Si c'était le hasard, c'est 50. Alors, soit il choisit le hasard, c'est on ne choisit pas, en fait. Voilà, il fait ça. Bien dans le hasard. Donc, le gars, il dit, qu'est-ce que c'est que ce chantier ? V'là-t-il pas que le mâle, il reconnaît la femelle qu'il n'a jamais vue. Comment il fait ? Donc, par le système de la génétique, des systèmes congéniques, bon bref, il arrive à montrer qu'en fait, c'est l'hétérogénéité au niveau de l'équivalent des HLA sur la souris qu'on appelle le H2. C'est fou. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir ces gènes différents pour que le mâle choisisse la femelle différente. Et jamais, ou peu souvent, la femelle identique. Vous voyez ? Et tout ça, donc, ça veut dire que vous avez le brassage génétique commence au choix du partenaire. Pour pas encourager des gènes particuliers qui sont déjà présents dans la population, pour qu'il y ait une diversité génétique, un brassage génétique. Voilà, et c'est valable pour le saumon, c'est valable pour l'épinoche, c'est valable pour tout un tas d'espèces. Alors pour nous, pour l'homme, c'était assez complexe. D'abord, vous ne pouvez pas faire des souches race pure, vous ne pouvez pas prendre les mères et les fils et puis les reproduire, tout ça, ça, c'est pas possible. Et donc, c'est des expériences qui sont faites soit chez les Amish, les trucs comme ça, les sectes, où ils ont une concentration de consanguinité très importante, parce qu'ils se marient qu'entre eux, donc ils se reproduisent qu'entre eux et tout ça. Mais ça n'a jamais été... Alors, le phénomène, il est assez, si vous voulez, enfin, je peux vous le dire, le résultat de pourquoi c'est comme ça, c'est assez fascinant. C'est qu'en fait, ces molécules HLA, je vous ai dit qu'elles étaient présentes à la surface de toutes les molécules, de toutes les cellules de l'organisme, mais elles sont aussi coupées à la surface. Donc, elles se retrouvent dans les milieux solubles, dans les milieux intercellulaires, si vous voulez. Et donc, en fait... elles se retrouvent aussi sur les muqueuses, notamment les muqueuses génitales. Et là, sur les muqueuses génitales, il y a tout un tas de bactéries. Donc les bactéries, ça fabrique énormément d'enzymes qui coupent les protéines. Donc vous avez un petit bout qui est dedans de peptides, qui est la caractéristique de vous-même, qui est votre soi, d'accord, qui est issu du découpage de toutes les protéines dont vous êtes constitué, hein, qui sont les protéines qui sont votre empreinte, quoi. Et vous avez, donc ça fait 8 acéminés, puis vous avez cette grosse protéine qui est du cerf de présentoir, qui fait à peu près 40 000 de poids moléculaire, c'est-à-dire qui fait 400 acides aminés, à peu près. Donc, et là, les enzymes, elles ont beaucoup plus de chances de couper le gros morceau que de couper le tout petit morceau, bien sûr. Donc, elles coupent le gros morceau. Donc, ce faisant, elles débobinent toute la molécule. Et ce faisant, elles libèrent les peptides. Et donc, elles libèrent les peptides à la surface des muqueuses génitales. Et il se trouve qu'il y a des récepteurs de l'olfaction, les V2R, qui fonctionnent exactement comme les HLA et qui reconnaissent cette empreinte. Et donc le mâle, il reconnaît son empreinte génétique, enfin à travers le produit du génome, c'est-à-dire les protéines, qui étaient présentes dans les HLA, et il reconnaît le sien et reconnaît celui des autres. Il connaît comme ça, il peut faire la différence entre sa génétique à lui et les autres, et ainsi choisir ce qui est différent. C'est fou, hein. L'immunité, ça va très loin, très très loin. Très beaux travaux, ça, de Böhm, un Allemand.
Alors, sauf erreur, on n'a pas jusqu'à présent encore trouvé de vaccin pour le VIH.
Je n'ai rien compris.
Je dis sauf erreur, on n'a pas trouvé de vaccin pour le VIH
non,
pour l'instant.
Encore, non. Non,
alors
non.
Comment ça peut s'expliquer par rapport à...
Le VIH, c'est assez particulier. C'est-à-dire que je voulais montrer, c'est-à-dire que le VIH, enfin... Vous avez deux types de vaccins. C'est comme les maladies, d'ailleurs. Vous avez des... Par exemple, si vous regardez la trypanosomiase chez les animaux en Afrique, vous avez les espèces d'importation européenne qui meurent, qui ne résistent pas, d'accord ? Qu'une fois qu'elles sont infectées, c'est fini. Mais vous avez les espèces africaines qui, elles, résistent. Sauf que elles n'ont pas éliminé le trypanosome. Elles ont la maladie, exactement comme le VIH chez le singe vert. Parce que nous, on l'a chopé du singe vert, parce qu'il y avait la déforestation. Les Africains mangent des singes. Et nous, on a rasé la forêt. Et dans la forêt, il y avait l'habitat de ces singes. Et il y avait les Africains qui nous suivaient. Et donc, c'était plus facile de choper ces pauvres singes. Et ils se sont infectés à partir de là. Chez le singe vert, le VIH... Il fait une maladie, le virus rentre et puis il y reste. Mais il est pas, ça lui bousille pas tout son système immunitaire, il n'en meurt pas du tout. Il vit avec, comme les trypanosomiases africaines et tout ça, dans les espèces africaines. Voilà. Donc, c'était la question. Oui. Donc, en fait, vous avez un problème qui est que la réponse immunitaire soit vous débarrasse, soit vous permet de vivre avec. D'accord ? Donc, vous avez des vaccins qui visent non pas à vous débarrasser du virus et tout ça, mais à que vous puissiez vivre avec, à faire un type d'immunité qui permette donc pas nécessairement d'éliminer ça. Puis vous avez des vaccins. Alors ça, c'est dans les vaccins contre le cancer, par exemple. On va essayer de vous vacciner avec des peptides, tout ça, des tumeurs, tout ça, pour que, bon, bah, que vous éliminiez de la tumeur, pas nécessairement toute la tumeur, mais bon, vous arrivez à vivre en bon équilibre avec la tumeur. Alors ça, c'était un truc très en vogue il y a quelques années. Et puis, vous avez les vaccins qui visent à protéger de façon prophylactique. C'est ces vaccins dont on parle le plus souvent. Mais ce n'est pas les vaccins uniques. C'est pas la vaccination, ce n'est pas quelque chose de si univoque que ça. Alors, ces vaccins prophylactiques, eux, ils ont pour but que vous n'êtes pas en contact avec la maladie, mais on vous immunise contre la maladie avant que vous la rencontriez. Comme ça, quand vous la rencontrez, ben, vous ne la faites pas. Ce qui se passe, c'est bien illustré ici, c'est que cela, il marche parce qu'il vous tape là sur toute cette portion-là, à 32 endroits différents de la protéine, vous avez une réponse immunitaire qui est dirigée contre 32 endroits différents de la protéine, d'accord ? Alors que là, vous n'avez que 8,7. Or, ce virus, comme je vous l'ai expliqué, il produit des tonnes de variants en permanence. Des tonnes, des milliards de variants, des milliards de variants. Donc, la première fois que vous êtes infecté par le virus, il va produire ces milliards de variants. Si vous n'êtes pas... Si vous ne tapez pas sur un grand nombre d'endroits, c'est fini. Vous avez sélectionné des variants qui vont échapper. Puis après, c'est la course. Et le système immunitaire, il court derrière les variants du VIH qui sont fabriqués à la tonne en permanence. Et il perd la course. Au bout de 10 ans, c'est fini. Vous n'avez plus de système immunitaire. Puis vous êtes au cimetière. Voilà. Donc, c'est une dynamique à la fois du système immunitaire, à la fois du virus. Tous les virus ne sont pas comme ça. Vous avez des virus comme l'hépatite, par exemple. Une fois que vous avez détruit le dernier virus de l'hépatite, c'est fini, vous êtes guéri. Parce qu'il n'y a pas de réservoir à la surface, dans l'intérieur des gens. Il n'y en a pas de réservoir. Donc si vous détruisez le dernier virus, vous en avez plus, et vous en aurez plus, sauf si vous vous réinfectez, bien sûr.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander, par rapport à tout à l'heure, quand vous avez mentionné la différence du système des femmes et de celui des hommes, quelles étaient ces différences, peut-être pour faire simple, mais...
Entre la femme et l'homme ?
Oui, les différences. Niveau du système immunitaire.
Alors ça, c'est une question difficile. Alors, on n'a pas la réponse à l'heure actuelle. Tout ce qu'on sait, c'est que les femmes font des réponses très aiguës, qui vont très haut, et se régulent très vite. Alors que l'homme font des réponses beaucoup plus régulées, qui vont beaucoup moins loin, mais qui durent plus longtemps. Et c'est dû en partie aux hormones, en partie... on a un chromosome qui nous manque, nous autres, on est quand même handicapé par rapport à vous. Donc, mais sur ce petit chromosome, il y a des gènes que vous n'avez pas, donc qui sont importants. Et donc, voilà, c'est comme ça. Après, c'est très très complexe. Hein. Je ne sais pas. Ça va très loin. Ça va. Alors, parce que le rôle des hormones, c'est ça a été exploré en transplantation, par exemple. Si vous castrez les hommes. Eh bien, ils tolèrent beaucoup mieux leur greffon. Donc, la testostérone est importante pour faire la réponse immunitaire. Et ça ne joue pas au niveau de la... C'est compliqué. Ça ne joue pas au niveau de la réponse. Comment expliquer ça ? Vous savez le principe de Cannon ? Non, l'homéostasie, ça ne veut dire rien. Bon, il y a un monsieur qui s'appelle Cannon qui a inventé un concept très important en biologie. En fait, il n'y a pas de phénomène biologique qui existe comme ça. En fait, c'est la somme d'un frein et d'une action plus. Tous les phénomènes biologiques sont résultat d'un plus et d'un moins. D'accord ? Donc, en fait, pour cette histoire-là, de la castration là, pour les greffes et tout ça, en fait, ça agit sur l'amplitude du frein. Car le système immunitaire est un système qui est très, très, très efficace. Dans les hépatites fulminantes, ça détruit 3 kilos de tissu en 48 heures. C'est très, très, très efficace et très dangereux. Donc, tout est fait pour qu'il ne se mette pas en marche. Et une fois qu'il est en marche, tout est fait pour qu'il s'arrête. Parce qu'il ne faut pas trop le mettre en marche. Quand on ne peut plus... c'est difficile à contrôler. Donc, en fait, vous avez tout un pan du système immunitaire qui est comment on le met en marche. Puis, vous avez tout un pan du système immunitaire comment on le freine. Et en fait... La testostérone, dans ce cas-là, ça agit sur le frein. Ça augmente ou ça diminue le frein. La testostérone diminue le frein. Qu'on appelle les lymphocytes régulateurs des Treg.
Il y a une autre question. Vous avez parlé des anticorps neutralisants.
Ouais.
Cependant, avec l'actualité, il est également évoqué la notion d'anticorps facilitants. Oui. De quoi s'agit-il ?
Alors ça, les anticorps facilitants, c'est des anticorps qui augmentent la maladie. Alors, comment ça marche ? C'est encore une autre chose, ça. C'est difficile et je ne sais pas si dans le corona, on le sait. Je ne pense pas qu'on le sache. Mais par exemple, en transplantation, c'est connu, il y avait des anticorps facilitants. Ou alors, dans l'immunothérapie des cancers. Dans l'immunothérapie des cancers, on va vous donner... Maintenant, l'immunothérapie des cancers, le concept est complètement différent. C'est que jusqu'à présent, jusqu'à 5-6 ans, là, ces 5 dernières 6 années, on agissait sur la tumeur. C'est-à-dire qu'on vous mettait la chimiothérapie, on essayait de détruire la tumeur. Voilà. Là, avec les immunologistes, ça a changé de concept complètement. C'est qu'on va agir sur le système immunitaire parce qu'on se dit, bon, le système immunitaire, c'est lui qui contrôle les tumeurs. Donc, si on agit sur lui, on va pouvoir contrôler les tumeurs, y compris les grosses tumeurs. Et d'ailleurs, ça marche assez bien, dans certains cas. Pas dans tous, malheureusement. Notamment dans le mélanome ou dans d'autres choses. Dans les cancers à petites cellules du poumon et ainsi de suite. Bon. Et donc, en fait, on va agir sur le système immunitaire. Donc, on va donner aux gens des anticorps monoclonaux qui vont réguler le frein de la réponse immunitaire. Et qui vont, on va libérer un peu le frein. Et donc, en libérant le frein, on va augmenter les réponses immunitaires. Et bien souvent, ça aboutit au rejet de la tumeur et donc à la survie du patient. Voilà. Or, il se trouve que dans certaines circonstances, non seulement ça ne fait rien, mais ça accélère le développement de la tumeur. Alors ça, comment ça marche je ne sais pas si... Enfin, moi, je ne sais pas... Il y a tout un tas de possibilités. Comme d'habitude, elles s'ajoutent. Voilà, c'est une question très difficile. Voilà. On peut pas. Vous savez, l'immunologie, c'est une science qui est un petit peu qui est récente. Hein, 95% de l'immunologie qu'on connaît maintenant, elle a été écrite après 1983. C'est la dernière des arrivées en biologie. Et on est encore que dans son enfance. Hein. L'immunologie, c'est un truc très complexe. Voilà.
Est-ce qu'il y a encore des questions ?
Le problème de ces vaccins, vous avez parlé tout à l'heure de maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui se passe comme réaction entre le vaccin et les personnes qui ont des maladies auto-immunes ?
Alors, pour l'instant... que sache, hein, si vous allez sur le site européen là, qui recense tous les effets secondaires des vaccins, en gros, la fréquence des accidents, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont de l'ordre de la fréquence des gens pas vaccinés. Hein, vous avez un exemple célèbre, c'était l'hépatite B avec la sclérose en plaques. Il y a eu beaucoup de procès, il y a eu beaucoup de papiers d'études qui ont été consacrés à ça. On n'a jamais pu faire la preuve que la vaccination contre l'hépatite B induisait la sclérose en plaques, une maladie auto-immune. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a déplacé l'âge de la vaccination de 17 ans, 18 ans, 16 ans à un an, maintenant, comme ça se fait, il n'y a pas de sclérose en plaques. C'est que tout simplement, on vaccinait à une époque de la vie où il y a un pic dans la population d'apparition de la sclérose en plaques. Donc, si vous faites des choses à cet endroit-là, vous observez une corrélation entre ce que vous faites, tout ça. Mais corrélation ne veut pas dire causalité. Il n'y a pas nécessairement de relation entre cause et effet. Quoique là, ce soit un peu plus complexe, parce que quand il s'agit de matière immunitaire, bien sûr... À chaque fois que vous activez votre système immunitaire, ben vous avez un certain risque d'aboutir à des histoires que vous ne voulez pas. Mais ce n'était pas pire que de faire un rhume, par exemple. Et d'ailleurs, dans les maladies auto-immunes, comme par exemple le lupus, érythémateux systémique, on préfère vacciner les gens plutôt que de les laisser exposés à la maladie. La maladie présente plus de risques que la vaccination, donc qu'on vaccine. C'est pas pour ça que la vaccination... La médecine, elle fonctionne sur le bénéfice-risque. Donc vous faites quelque chose, pas parce que c'est nécessairement inoffensif, mais parce que c'est moins mauvais. C'est tout. Ah oui, ça c'est important. Hein. La vaccine, le vaccin contre la variole, ça induisait des encéphalites vaccinales une fois sur 1 million à peu près. En plus, pour moi, que la variole, on l'a éradiquée de la surface de la planète, parce qu'il n'y a pas de réservoir autre que l'humain. Donc, si le dernier humain qui a la variole n'existe plus, il est traité, tout ça, ben, vous n'avez plus de variole, c'est fini. La poliomyélite est en voie d'éradication. Poliomyélite, moi, à mon âge, sur la plage et tout ça, on voyait des gamins, ils étaient tordus ou patati patata, ils avaient eu la polio. Hein. C'est pas rien, hein, le vaccin. Vous avez deux facteurs hein, qui contribuent à ce qu'on soit là pour en parler actuellement, nous, les gens âgés, c'est l'hygiène et la vaccination. Hein. L'effet de la médecine, autrement, il est assez faible. Sauf peut-être la cardio, à l'heure actuelle, puis les maladies infectieuses bactériennes, quoi. Mais quoique, on est en pleine régression actuellement avec les bactéries résistantes, là, multirésistantes et tout ça. Voilà. Allez-y.
Est-ce que le fait que certains pays soient moins vaccinés au niveau de la population, ça influe sur les nouveaux variants ?
Ah ben, ça influe sur les nouveaux variants. Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, ce virus, il va être comme le virus de la grippe, ça veut dire, ou comme les autres coronavirus, les quatre autres qui sont présents, quoi. Une fois que tout le monde va être immunisé, ben, normalement, voilà, il va y avoir des variations, des mutations, et patati patata, mais comme je vous dis, on va s'immuniser, et puis voilà, on ne le verra même pas. Là, ceux qui sont vaccinés, tout ça, quand ils sont réinfectés, bon, pour la plupart, on ne s'en rend pas compte. Donc, voilà la situation à laquelle on va aboutir. Alors, plus on aboutit vite à cette situation, moins il y aura de variants. C'est-à-dire que le fait là, de s'isoler avec le masque, là, ça encourage les variants. Plus vite vous aurez l'immunité de groupe, et plus elle sera massive, moins vous risquez d'avoir de variants, ou alors plus vous les contrôlerez. Je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Donc, vous savez, c'est pathétique, tout ça, parce que vous voyez l'exemple de la Suède. Bon, l'Angleterre, c'est fini, là, ils ne portent plus de masque et de ça depuis la semaine dernière. Mais vous êtes vacciné, ou si vous avez des anticorps. Alors, il y a Alain Fischer qui disait, où le téléphone sonne, ça ne sert à rien de regarder les vaccins. J'ai beaucoup d'estime pour Alain Fischer, mais malgré tout, quand même... c'est quand même utile. J'ai un copain là, qui m'a téléphoné, ce que disait Héloïse. Là, et il me dit, ah bon, si, patin, le vaccin et tout. Et il me dit, je me suis vacciné au mois d'avril l'année dernière et j'ai fait faire mes anticorps au mois de décembre. J'en ai pas. Pensé en moi-même, j'ai dit, t'en as pas, c'est que t'en as pas fait. C'est quand même informatif. Vous n'en avez pas. Parce que tout ce que je vous ai dit avant, 6 mois après, vous devriez en avoir. Alors après, est-ce qu'ils sont neutralisants, est-ce qu'ils ne sont pas neutralisants? Maintenant, vous avez des tests qui peuvent vous dire détecter les anticorps neutralisants. Parce qu'ils mettent des peptides dans le fond des plaques et tout ça, bon bref, qui sont les portions de la protéine contre lesquelles sont dirigés l'anticorps et tout ça. Donc, ils peuvent vous dire ces anticorps neutralisants et tout ça. Bon, ma mère, elle a 88 ans, je lui ai fait faire le test. Bon, elle a un taux au plafond d'anticorps neutralisants. Bon, mais c'est bien. Moi, je suis tranquille pour elle. Moi, maintenant, qu'elle mette un masque, qu'elle ne remette pas. De toute façon, elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait l'heure d'avant, donc ce n'est pas très grave. Mais voilà, mais elle risque pas grand-chose. Je ne mourra pas de ça. Hein. Non, c'est tout. Alors, c'est quand même utile. Je suis désolé, c'est quand même utile. Et on a fonctionné là-dessus pendant des dizaines d'années. Je vous rappelle quand même que la règle pour l'hépatite B, on vous vaccine et après... On regarde si vous avez des anticorps tout au long de votre vie. Si vous en avez, on ne vous vaccine pas. Ah, c'est tout. Après, l'histoire de la persistance, l'histoire de l'immunité et tout ça, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur le premier SARS, le SARS-1, en 2002-2003. D'accord ? 18 ans après, les gens sont toujours immunisés 18 ans après. Est-ce que je vous expliquais hein ? Mais c'est compliqué. Hein. L'épidémiologie des maladies infectieuses, c'est vachement complexe. Hein. Ce n'est pas aussi simple qu'on a bien voulu nous le dire. Hein. C'est super complexe. Et le rôle du système immunitaire là-dedans, bah, il n'est pas neutre, c'est clair. Mais il n'est pas toujours positif. Parce que, comme vous l'indiquez, évidemment, il encourage, lui, l'échappement au système immunitaire. Sauf que le virus, il ne peut pas muter n'importe quoi. Parce que s'il mute n'importe quoi, bah, ce qui risque, c'est que la protéine ne fonctionne plus pour qu'il rentre dans les cellules. Donc s'il ne rentre pas, celui-là, vous ne le voyez pas, il est éliminé.
Donc effectivement, l'immunologie, c'est fascinant. Et j'aurais bien aimé savoir si jamais vous avez des personnes à conseiller, comme par exemple Alain Fischer ou Böhm, ou alors des films, des livres.
Des personnes ou des livres
Ce qui est le plus intéressant, quand on ne connaît pas trop le sujet et qu'on a envie de s'y intéresser.
Alors, vous aurez qu'à remarquer, les immunologistes, on les a très peu entendus.
Effectivement.
On a beaucoup entendu les épidémiologistes qui ont raconté des tas de conneries, mais les virologistes qui étaient dans leur légitimité de virus, mais les immunologistes très peu. Alors, alors pourquoi parce que quand on étudie ça, bon, 40 ans, je ne suis pas du tout inquiet, hein, ça fait 350 millions d'années que le système existe, et il en a vu des vertes et des pas mûres, il a toujours résisté. Donc, bon, compte tenu de la mortalité de ça, il n'y a pas de raison qu'il ne résiste pas cette fois-là. Enfin, j'en vois pas, moi. Alors, des gens... Problème de l'immunologie, je vais vous le dire, moi, parce que pendant 40 ans, j'étais enseignant d'immunologie, c'est que ça déroute les gens parce que c'est une partie de la biologie qui change vite. Donc, ce qui est valable aujourd'hui, dans les théories et tout ça... Il y a une part qui ne changera pas. Tout ce que je vous ai expliqué, les grandes lignes, ça ne changera pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pense être vraies qui ne le seront pas nécessairement dans 10 ans. Donc ça, c'est très déstabilisant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une terminologie qui est complexe. Enfin, ce n'est pas qu'elle soit complexe, mais le contenu sémantique s'entend entre immunologistes. C'est-à-dire que... Tout à l'heure, je parlais de la restriction allogénique. Vous voyez, c'est un terme barbare, mais je peux vous l'expliquer. Mais c'est un truc très immunologiste et qui s'explique. Ah, j'en prends un autre. Par exemple, les HLA. On appelle ça des antigènes HLA. La notion d'antigène s'explique que par la notion d'anticorps. C'est-à-dire, en gros, un antigène, c'est quelque chose qui suscite des anticorps. Tout ce qui ne suscite pas des anticorps, ce n'est pas un antigène. D'accord ? Donc, M. Dosset, il appelait ça les anticorps HLA. Parce qu'il appelait ça les antigènes, pardon, HLA. Parce qu'il l'a découvert à partir d'anticorps chez les femmes enceintes, pour l'essentiel, ou des transfusés, qui se développaient dans la population. Vous voyez, c'est très simple ce qu'il a fait. Il a pris des gens, des sérums des gens, puis il a pris des cellules de d'autres gens. Et il a regardé si les anticorps tuaient les cellules de ces gens. Puis s'est aperçu que c'était hétérogène. Il y avait des cellules qui étaient tuées par M. A, mais pas par M. B, par C, tout ça. Et il a fait comme ça des grilles à double entrée. Et puis il a fait des groupes HLA. C'est tout bête. Mais ça s'est défini par rapport à cette notion d'antigène-anticorps. Alors que, en fait, la fonction de ces protéines n'a rien à voir avec antigène-anticorps. C'est la fonction de présentation qui est canonique, qui n'est pas exclusif. Ça sert à d'autres choses, mais bon. Voilà. Donc ça, c'est un obstacle à la pensée, parce que quand vous rentrez dans l'immunologie, vous n'avez pas, évidemment, cette vision historique des choses. Donc ça peut être un obstacle. C'est pour ça que je conseille, moi, de ne pas du tout s'intéresser aux détails, mais d'essayer de comprendre les grandes lignes, ce que j'essaie de vous faire aujourd'hui. C'est-à-dire comprendre la présentation de l'antigène, comprendre comment l'antigène est reconnu, soit par l'infocyte, soit par les anticorps, et tout ça, pour... Essayez de dresser un vaste panorama très haut. Et après, on va s'intéresser à un pan ou à un autre. Parce que l'immunologie, c'est très vaste, comme je vous ai dit. C'est ce qui est le support de la vie à la surface de la planète. Donc, je ne sais pas, moi, en médecine, c'est les vaccinations, c'est le cancer, c'est les transplantations, c'est les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est la troisième cause de maladie hein, dans les pays développés. Premier, c'est cardiovasculaire. Enfin, maintenant, c'est le cancer. Cancer cardiovasculaire. Troisième, c'est les maladies auto-immunes. L'allergie. C'est aussi l'immunologie, ça. Et les maladies infectieuses. Donc, c'est vastissime. Donc, vous ne pouvez pas avoir... vous pouvez pas arriver là-dedans et puis dire « Ah ben non, mais je vais tout comprendre d'un seul coup. » C'est pas possible. Donc, après, les livres de vulgarisation, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ça, je dois le reconnaître. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école française qui, comme d'habitude, s'intéresse beaucoup aux détails et tout ça, et noie le lecteur. Puis il y a l'église américaine, l'école américaine, pardon, qui, elle, est beaucoup plus didactique, qui va raconter des histoires, qui essaye de raconter des histoires. Donc, il y a le bouquin de Jane Way. Bon, Jane Way, il est décédé, Charlie, il y a une dizaine, une douzaine d'années maintenant, mais bon, ses livres sont toujours mis à jour et tout ça. Et c'est cette façon de raconter. Il part des réponses immunitaires. Plutôt que de découper le système immunitaire, comme je l'ai fait un peu aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il y a un gros problème didactique. C'est par où on commence. Parce que tout fait un ensemble. On peut rentrer par le système immunitaire par n'importe quel bout, mais bon... voilà, donc Janeway, J-A-N-E-W-A-Y, Janeway, Charlie, c'est... Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, vous verrez. Il est traduit en français, tout, pas de problème. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai pas trop noyé. Je n'ai pas voulu le faire, si je l'ai fait. Mais il y a obligatoirement un niveau de complexité, quoi, qui... même si on veut le simplifier.
Après, la conférence est en ligne à nouveau. Enfin, voilà, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube de l'Espace Mendès France. Donc, si vous voulez, vous pouvez réécouter, parce que je pense que ça peut être bien, voilà, s'il y a des éléments que vous voulez réentendre. Et bien, merci beaucoup pour cette conférence. Oui. Voilà,
merci. Merci, merci.
Et
merci.
Puis, si vous voulez, la semaine prochaine... on a à nouveau, donc vous savez, les Amphis du Savoir, il y a deux conférences simultanément. Donc il y en aura une ici qui va être, qui s'intitule « Que se passe-t-il dans la tête d'un céphalopode ?» Donc sur les poulpes et leur mode de vie, avec une éthologue qui s'appelle Lisa Poncet. Et uniquement en ligne, donc sur la chaîne YouTube de l'Université de Poitiers, une conférence sur la maladie de Huntington, donc les découvertes et les avancées avec la docteure Laurie Galvan. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vos questions et à bientôt. Au revoir.